Monsieur Thomas Clé, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour nos auditeurs, donc vous êtes professeur agrégé de droit à la faculté de Versailles, dans les Yvelines, mais vous êtes aussi le vice-doyen de cette faculté.
Oui.
Parfait. Alors, je vous reçois à propos d'une chronique qui a été publiée dans la chronique Rebond du journal Libération, le mardi 12 avril 2005, et qui a le titre suivant « Chirac rend la justice couette ». Alors, le sous-titre de cette rubrique, c'est « Le nom du président a disparu de deux dossiers les plus compromettants le concernant ». Et surtout, donc, en quatre pages incisives, vous expliquez comment Monsieur le Président de la République a réussi par des manœuvres antidémocratiques à annuler les poursuites qui risquaient de le concerner une fois qu'il ne serait plus le Président de la République. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que Monsieur le Vice-Doyen, vous pouvez déjà raconter un peu la chronologie de ces dossiers? Je pense notamment évoquer le rôle d'un juge qui a été un des tout premiers à s'intéresser à la galaxie de la Chiraki, c'est Monsieur le juge Éric Alphen.
Oui, ce serait sans doute un peu compliqué de reprendre toute la chronologie de ces différentes enquêtes qui sont multiples, qui sont diverses, même quand on est un peu spécialiste de ces questions, on se perd complètement. Alors, pour les auditeurs qui ne seraient pas spécialistes, je crains qu'effectivement, ils pourraient être totalement égarés. Ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que depuis quelques années maintenant, le système qui avait été mis en place, aussi bien à la mairie de Paris que dans l'ancien RPR, était un système en marge de la légalité pendant une vingtaine d'années, disons entre les débuts des années 80 et à peu près jusqu'en 1995, où on s'aperçoit aujourd'hui que tout était bon, tout était acceptable du moment que cela permettait de financer les activités politiques, voire certains financements un peu mal à l'aise de parler de ces choses-là, mais disons d'enrichissement personnel, voilà, qui ne sont pas démontrés, qui ne sont pas prouvés, dont on ne peut pas, donc pour l'instant, on ne peut pas en parler en tant que tel. Alors, oui, donc pour répondre à votre question, effectivement, le système a été mis en place et qu'il y a une multitude d'affaires qui sont aujourd'hui devant les tribunaux, l'affaire des emplois fictifs qui a vu la condamnation notamment d'Alain Juppé par la Cour d'appel de Versailles, l'affaire des marchés publics d'Île-de-France qui est en cours, dont les audiences se déroulent en ce moment. L'affaire des HLM de Paris, qui est effectivement la première et qui était celle qui était instruite par le juge Éric Alphen à Créteil. Et effectivement, Éric Alphen a été le premier à dévoiler une partie de ce système. Et on sait ce que ça lui en a coûté. Il a raconté dans un très beau livre tout ce qu'il a subi comme pression qui lui ont rendu une vie véritablement infernale au point qu'il a préféré finir par se mettre en disponibilité de la magistrature. Bon, il y a d'autres affaires encore, il y a l'affaire des frais de bouche, il y a l'affaire de la
Alors, elle est prescrite, hein, l'affaire des frais de bouche.
Alors voilà, l'affaire de la frais de bouche
a donné une ordonnance de clôture. Hein,
Oui, effectivement, l'affaire des frais de bouche est prescrite. C'est d'ailleurs la seule pour lequel on peut dire que la solution juridique semble imparable. Effectivement, il y a une prescription dans cette affaire. Vous avez dit tout à l'heure en me présentant que je disais comment dans mon article effectivement publié dans Libération, comment le président Chirac avait manœuvré pour sortir des dossiers compromettants. Je crois qu'on ne peut pas aller jusque-là, parce qu'on a nulle preuve et nulle démonstration de manœuvre. Mais on peut simplement constater le résultat. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans les deux dossiers les plus compromettants, c'est-à-dire l'affaire des HLM de Paris et l'affaire des marchés publics d'Île-de-France, qu'il ne faut pas confondre, dans ces deux dossiers-là, dans lesquels le président Chirac, son nom était cité, et c'est notamment dans ces affaires-là que les juges ont voulu l'entendre, et c'est à l'occasion de ces affaires-là qu'une immunité lui a été mystérieusement octroyée.
Alors, il faut préciser à nos auditeurs qu'à l'époque, le président du Conseil constitutionnel était Roland Dumas, lui-même inquiété dans d'autres dossiers, et qu'il avait donc décrété que le président avait une immunité de fait.
Alors, là encore, moi, je ne veux pas trop personnaliser les choses, parce que mon propos n'est pas un propos politique, c'est un propos de juriste.
D'accord, je précise quand même aux auditeurs, qui a rendu cette décision, c'est quand même le président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas. Il était inquiété dans l'affaire Elf, notamment, et dans l'affaire Giacometti, c'est quand même pas rien.
Oui, mais c'est pas Roland Dumas qui rend la décision. c'est le Conseil constitutionnel.
Et il le présidait.
Effectivement, il en était le président à l'époque. Ce qu'on peut, si on veut personnaliser un tout petit peu et être alors peut-être un tout petit peu encore un peu plus polémique,
oui,
ce qu'on
merci.
Peut rappeler, c'est que l'immunité qui a été donnée par le Conseil constitutionnel a été donnée à propos de l'examen d'une loi qui n'avait absolument rien à voir avec toutes ces affaires-là, qui était le projet de loi de ratification de mise en place de la Cour pénale internationale. Donc absolument rien à voir avec tout ça. Et au détour d'un considérant, c'est donc un extrait de la décision, le Conseil constitutionnel nous dit que le chef de l'État français bénéficie d'une immunité judiciaire. Et si on veut être un tout petit peu polémique, on peut rappeler que le rapporteur de cette décision, qui n'était pas Roland Dumas, était un des membres du Conseil constitutionnel, ancien ministre socialiste du gouvernement Rocard, Michel Lenoir, pour ne pas la citer, qui est devenu, à sa sortie du Conseil constitutionnel en 2002, ministre du gouvernement Raffarin. Voilà.
Bien, revenons-en aux deux dossiers donc, dans lesquels le nom de M. Chirac était cité, donc vous l'avez bien précisé, celui des HLM de la ville de Paris et celui donc, dont les audiences ont commencé le 21 avril, donc celui des marchés publics d'Île-de-France, dans lequel la vedette est son ancien chef de cabinet, M. Michel Roussin.
Exactement. Michel Roussin qui a d'ailleurs déclaré avant-hier durant les audiences, que effectivement, il travaillait en liaison avec son patron, et il précise dans sa déclaration, patron qui était à la fois maire de Paris et patron du parti politique principal. Mais Michel Roussin ajoute aussitôt que son rôle était de rappeler la loi. La loi en matière de financement des partis politiques pendant toutes ces années-là.
Alors, on va être un peu polémique, on va donner quelques éléments biographiques à nos auditeurs sur M. Michel Roussin. Donc pendant 10 ans, il a été le chef de cabinet donc, à la mairie de Paris de M. Jacques Chirac. En récompense de ses services, il a été nommé sous le gouvernement Balladur ministre de la coopération. Et ensuite, il a donc dû démissionner justement parce que son nom a été cité par le juge Alphen dans son dossier. Donc il a bénéficié d'un non-lieu. Bien.
Oui, il faut quand même rappeler ça. C'est que dans le dossier des HLM, Michel Roussin a bénéficié d'un non-lieu.
Ce qui n'est pas le cas donc de Juppé, qui lui a été renvoyé dans le dossier annexe des emplois fictifs devant la cour d'appel de Versailles, puisqu'il contestait donc la peine d'inéligibilité de 10 ans qu'on lui avait infligée au tribunal de Nanterre.
Oui, exactement. Alors vous savez que sur ce point-là, il y a aussi une controverse juridique. C'est-à-dire qu'effectivement, Alain Juppé a été condamné devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Il a fait appel, et on se souvient dans quelles conditions cette affaire a été médiatisée, avec le drame personnel que vivait Alain Juppé. Il a fait appel devant la cour d'appel de Versailles, et là, il n'a obtenu qu'un an ferme d'inéligibilité. Et cette décision-là, il n'est pas du tout certain qu'elle soit juridiquement conforme à la légalité. Il y a effectivement toute une discussion qui montre que, en quelque sorte, la liberté qu'a pris la Cour d'appel de Versailles avec les textes du code électoral, cette liberté-là, sans doute, devant la Cour de cassation, puisque l'affaire est pendante devant la Cour de cassation, va amener la Cour de cassation à casser l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, ce qui fait qu'on devrait recommencer le procès sur les marchés publics.
Alors, sans compter que certains sans compter qu'un certain nombre d'électeurs de Bordeaux avaient contesté cette décision pour justement faire appliquer les 10 ans d'inéligibilité à M. Juppé, parce que un autre personnage de
Vous avez parfaitement raison, vous connaissez très bien ces questions, manifestement.
Oui, merci. Monsieur François Mancel, lui, il a eu les 10 ans d'inéligibilité.
Oui, c'est une peine automatique.
Voilà.
C'est une peine qui n'est pas modulable. Si vous voulez, une chose égale par ailleurs, c'est comme Fabien Barthez.
Oui, on allait le dire, j'allais le dire.
Voilà, il y a une peine planchée de 6 mois si on crache sur un officiel. On ne peut pas mettre 3 mois ferme et 3 mois avec sursis pour Fabien Barthez. C'est pareil pour Alain Juppé. Il y a une peine planchée.
Et
il est amusant d'ailleurs de se souvenir que cette peine, elle a été votée par le gouvernement Juppé de 95.
Tout à fait. Et c'est ce que les magistrats de Nanterre lui ont sévèrement répliqué. Et en plus, on se rappelle donc de ce que la présidente disait, à savoir qu'il y avait des intrusions dans les ordinateurs, il y avait des intrusions dans les bureaux, et qu'elle a dû rendre un jugement écrit à la main parce qu'elle n'était pas sûre qu'en l'ayant tapé, il n'y ait pas des fuites informatiques.
Mais là
c'est quand même fantastique, cette histoire.
Là encore, madame, moi, si vous voulez, ça, c'est les propos qui ont été tenus par la magistrate de Nanterre. Il n'y a aucune raison de ne pas la croire. Mais
oui,
en même temps,
il n'y a aucune raison de ne pas la croire.
Mais en même temps, l'enquête a montré que tout cela n'avait pas été prouvé. Et si on s'en tient à une analyse juridique, et c'est ma fonction, parce que moi, je ne recherche pas la vindicte du personnel politique, mais simplement la justice, qu'elle soit qu'elle concerne des personnalités de droite ou de gauche, peu importe d'ailleurs. On peut pas tenir ces faits pour acquis dès lors que l'enquête n'a pas pu rapporter les preuves de ces faits-là.
Alors, monsieur le vice-doyen, quand on montre toutes ces manœuvres dans les dossiers annexes, dans lequel, et surtout dans les deux dossiers dans lesquels monsieur Chirac, son nom a été cité, puisque monsieur Alphen l'avait même carrément convoqué, monsieur le juge des murs, qui avait donc la partie du dossier des emplois fictifs du côté donc des Yvelines, avait dû demander à la cour d'appel un jugement pour savoir si oui ou non il avait le droit de convoquer le président de la République, et on lui avait dit, attendez, qu'il ne soit plus président. Donc, quelque part, toute cette espèce de background explique votre chronique et on comprend qu'il y ait eu des manœuvres, même si M. Chirac, on ne peut pas l'accuser directement d'avoir donné des ordres. Mais en tout cas, on peut constater qu'il y a une espèce de background et de manœuvres dans plusieurs dossiers autour, dedans, au-dessus et en dessous, qui font que, bon, et comme vous le précisez bien, et c'est là que j'aimerais que vous l'expliquiez à nos auditeurs, dans un État qui se dit démocratique comme la France, il y a eu des manœuvres qui font que M. Chirac ne sera plus poursuivi. Alors, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs ce que vous avez admirablement exposé dans votre chronique ?
Demandez comme ça, bien sûr.
Merci.
En réalité, il y a eu, si on reprend une chronologie grossière, pendant 20 ans, il y a eu une confusion entre les comptes publics et les comptes des partis politiques, et je ne parle pas là des enrichissements personnels, comme par exemple l'affaire des billets d'avion, etc., etc.
Ou les frais de bouche,
etc. Bon. Donc il y a eu une confusion des patrimoines qui est évidente, et personne ne croit aujourd'hui que cette confusion n'a pas eu lieu. Donc pendant 20 ans, il y a eu cette confusion des patrimoines, et puis, à partir de 1995, il y a une autre activité qui n'a rien à voir, qui a consisté à se demander comment échapper à la justice. Donc depuis 10 ans, toutes les personnes qui se sentaient impliquées dans ces dossiers ont mis en place des stratégies pour échapper à la justice. Alors les stratégies, elles ont été très simples et très visibles, certaines visibles, d'autres moins visibles. Première stratégie, effectivement, l'octroi d'une immunité en tant que chef de l'État, immunité qui d'ailleurs a été étendue de manière monarchique à la famille du président de la République.
Exact. Donc Madame Chirac, par exemple, qui avait été à un moment citée dans certains dossiers, ne pourra pas, ni même sa fille n'était...
Sa fille a été entendue.
Oui, mais elle n'était pas obligée d'être entendue. À la limite, elle aurait pu ne pas le faire. C'est cette espèce de dérive monarchique.
Oui, enfin, sa chef de cabinet a été, on lui a demandé de convoquer après les élections présidentielles de 2002, parce qu'avant ça a été politique. Madame Chirac, le président a fait savoir qu'il trouvait ça extrêmement grossier de la convoquer, etc., etc. Donc toute une série de pressions. Mais si vous voulez, si je reprends la chronologie, donc il y a eu cette immunité qui, issue du Conseil constitutionnel, ne disait pas grand-chose, et qui a été confirmée dans une décision d'assemblée plénière de la Cour de cassation de novembre 2001, et il faut quand même reconnaître que la Cour de cassation et l'Assemblée plénière, c'est quand même la formation suprême de la formation suprême de la juridiction judiciaire. C'est des magistrats qui ne jugent pas à la légère et qu'on peut difficilement soupçonner d'impartialité ou d'être sensible aux pressions. C'est quand même, ce sont nos plus hauts grands, nos plus hauts magistrats, et on peut leur faire crédit de ce que la décision qu'ils ont rendue est une décision qui juridiquement peut se défendre. En tout cas, c'est mon opinion d'un point de vue juridique. Donc il y a eu cette décision qui a mis fin aux poursuites le temps que durent les fonctions du président de la République. Et puis il y a eu un deuxième temps, il y a eu le... cette décision a été précédée des refus de témoigner.
Ah oui, ça...
Il faut quand même rappeler effectivement qu'il y a eu un refus de témoigner, et c'est quand même une des décisions sensibles, parce que le témoignage, ce n'est pas la mise en examen. Le témoignage, c'est le concours à la manifestation de la vérité.
C'est-à-dire qu'il s'asseyait sur le pouvoir des magistrats du siège.
C'est-à-dire que les magistrats du siège, ou les magistrats instructeurs qui enquêtent, ont besoin d'avoir des témoignages pour parfaire leur enquête, et on leur dit, moi je ne vous donne pas mon témoignage, et si vous me convoquez, je ne vous réponds même pas. C'est ça qui s'est produit. Donc, au nom de l'immunité. L'immunité, c'est pour la mise en examen, c'est pas pour le témoignage.
On est d'accord. C'est bien de le préciser à nos auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quand vous êtes convoqué, vous êtes tout de suite dans le système. Non, vous êtes parfois témoin assisté avec un avocat, et vraiment, après, lorsque vous êtes mis en examen, on se rend compte que les magistrats font très attention avec les mises en examen, et donc c'est pas... Donc on a tort d'écouter tous ceux qui crient, qui conspuent les magistrats, parce qu'ils font des mises en examen express ou automatique.
Oui. Alors, Donc d'abord, refus de témoigner, ensuite immunité. Mais l'immunité, d'un point de vue juridique, encore une fois, elle peut se défendre. Moi, j'y suis pas favorable, mais elle peut se défendre. Ensuite, recherche d'une pérennité de cette immunité. D'abord avec une commission installée par le président de la République, la commission Avril, qui était chargée de proposer une réforme du statut du président de la République pour inscrire l'immunité dans la Constitution. Le rapport a été rendu il y a plus de 2 ans, me semble-t-il. Ce rapport n'a évidemment donné lieu à aucune transposition législative. Ensuite, beaucoup plus récemment, en janvier 2005, le président de la République, ou en tout cas un sénateur proche du président de la République, pour être plus précis, a essayé de mettre en place un système d'immunité, plus exactement, pardon, de nomination comme sénateur à vie de tous les anciens présidents de la République française.
Bon. Donc du coup, ils avaient une immunité automatique. Alors voilà. On pense à M. Valéry Giscard d'Estaing et à M. Chirac, puisque M. Mitterrand est mort, donc ça le concerne
plus. Oui, ça ne concerne pas un nombre infini, effectivement, de personnes. Donc le président, effectivement, il y aurait eu un basculement automatique du président de la République vers la fonction de sénateur à vie. Et donc, le président de la République aurait été en quelque sorte abrité derrière une immunité parlementaire qui n'est pas aussi forte qu'une immunité constitutionnelle du président de la République, mais qui est très difficile à renverser. Et à partir du moment où la fonction est à vie, l'immunité est éternelle.
On est d'accord.
Voilà. Donc, et puis alors, effectivement, ça a été une proposition de loi qui n'a pas été poursuivie, enfin, pour l'instant. Et puis, dernier état, donc. On s'aperçoit, finalement pas grand monde s'en est rendu compte, que dans ces deux dossiers des HLM de la ville de Paris et des marchés publics d'Île-de-France, dans les ordonnances de renvoi, ne figure pas le cas Chirac, ce qui est normal puisqu'il a cette immunité, mais le cas Chirac n'est pas disjoint. Alors c'est un peu technique, mais ça signifie que, en quelque sorte, le dossier d'instruction n'est pas resté ouvert uniquement pour le cas Chirac. Ce qui signifie qu'il n'est pas renvoyé, mais il ne bénéficie pas non plus d'un non-lieu explicite. Ça veut dire qu'il a tout simplement disparu de ces dossiers.
Voilà. Et donc c'est... donc c'est les deux termes qu'il avait donné à deux journalistes donc lors de son discours habituel à l'Élysée. Il avait dit pchit et abracadabrantesque. Voilà, merci monsieur le vice-doyen. Donc voilà, en fait, il avait quelque part donné une indication peut-être subliminale à ceux qui ont réussi à le faire disparaître.
Oh ben ça tourne à la magie, hein.
Oui.
C'est sûr que ça tourne à la magie et qu'abracadabrantesque est une expression tout à fait adéquate parce que les journalistes l'interrogent, il leur répond par des onomatopées ou des mots empruntés à la poésie et puis les juges ne l'interrogent plus, c'est terminé, et il ne pourra plus être interrogé. Et donc il ne pourra, en principe il pourrait encore être poursuivi, mais en réalité ce sera impossible en pratique. Donc, il a disparu de ces deux dossiers. Le dernier dossier sur ces 4 ou 5 dossiers qu'il a en cours, le dernier dossier sur lequel il peut encore être poursuivi, c'est le dossier des emplois fictifs dans lequel Alain Juppé a été condamné, parce que, précisément, le juge qui poursuivait à l'époque a disjoint le cas Chirac du cas des 33 autres.
Alors, vous pouvez donner le nom de ce juge, mais parfait, qui a justement prévu ce genre de
problème.
Oui,
c'est le juge d'instruction de Nanterre, Alain Philibault.
Parfait. Monsieur le vice-doyen, je vous remercie infiniment.